L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, c'est votre très chère mission, l'heure de la vérité. Oui, nous bénissons le Très-Haut pour ces merveilleux privilèges qui nous accorde une fois de plus. Oui, d'honorer ce rendez-vous autour de sa sainte parole. Oui, et surtout, ce grand rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Pour vous servir, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et cette émission se déroule sous l'œil très vigilant de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'Incomparable, toujours imité, jamais égalé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une fois de plus, j'ai béni le Très-Haut pour ce merveilleux privilège qui m'accorde d'honorer ce rendez-vous, parce que c'est toujours un réel plaisir pour moi de partager la vérité biblique avec vous, très chers auditeurs, très chères auditrices, où que vous soyez. Puis recevez mes sincères et chaleureuses salutations dans le tout-puissant, magnifique et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois béni pour ce moment, sois béni pour ta divine protection, ton souffle de vie. Merci pour tous ces auditeurs et toutes ces auditrices. Seigneur, je prie que tu prennes le total contrôle de toutes choses dans les moindres détails. Je te recommande tous ces auditeurs, toutes ces auditrices où qu'ils se trouvent. Seigneur, que ton esprit prenne le total contrôle. Et que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui se lèvera contre la connaissance de Christ, tout raisonnement, tout auteur qui se lèvera contre la vérité, que cet esprit soit assujetti au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es au total contrôle. La gloire te revienne à toi seul maintenant et pour l'éternité. Amen. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons continuer notre partage depuis un certain temps par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes en train de nous entretenir sur les fausses doctrines. Oui, nous avons vu les fausses doctrines concernant le chemin du salut, le baptême, la personne de Jésus, les serviteurs de Dieu. Et nous sommes en train de parler de l'Église. Oui, puisqu'on ne peut pas parler de Jésus, de baptême, de serviteurs de Dieu sans parler de l'Église. Et c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Et avant de parler de l'Église, nous allons lire certains versets. Parce que je voudrais vous amener à comprendre pourquoi il y a les fausses doctrines. La parole de Dieu est suffisamment claire concernant certains sujets, mais malheureusement, nous nous retrouvons avec les gens, avec les systèmes religieux, avec les religions qui prêchent exactement le contraire de ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu vivant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En passant, nous pouvons lire deux versets. Comme d'habitude, je vous invite à avoir un stylo, un papier ou un cahier pour relever tous ces versets. Et après, prendre tout votre temps pour vérifier. Parce que mon désir le plus ardent, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu, sur la vérité biblique. Et non sur les dogmes d'un système religieux et non sur la sagesse des hommes. Nous sommes dans 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, à partir du premier verset, au verset 3. 2 Pierre 2 à partir du premier verset. Il est écrit: il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2: plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Puis la Bible nous dit que beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux enseignants de la parole de Dieu vont s'introduire au milieu du peuple et vont même attirer beaucoup de gens à eux. Mais puisqu'ils vont enseigner des choses qui n'ont pas de fondement biblique, la Bible nous dit que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on prêche ces choses aujourd'hui, beaucoup ont de la peine à croire parce que c'est exactement le contraire de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre dans leur système religieux. Et lorsqu'on voit aussi les pratiques qui ne glorifient pas Dieu, au milieu des enfants de Dieu et dans les systèmes religieux, dans les églises, tout cela contribue à faire calomnier la vérité. Mais la Bible nous dit aussi que par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. Oui, beaucoup, c'est par amour de l'argent qu'ils ont décidé expressément d'enseigner les faussetés, les choses que les gens vont aimer, les choses agréables à l'oreille des hommes. Parce que le but, ce n'est pas d'amener les gens au ciel. Ce n'est pas d'amener les gens au Seigneur Jésus. Ce n'est pas d'amener les gens à connaître la vérité, mais c'est de les exploiter financièrement et matériellement. Et voilà le pourquoi les fausses doctrines. Voilà aussi quelques raisons qui justifient les fausses doctrines. La cupidité, l'amour de l'argent. Et dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, le verset 13, Jésus va dire: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il y a les gens qui ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux. Et il ferme aussi le royaume des cieux à ceux qui voudraient y entrer. Oui, sachez-le très bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans le système religieux, qui sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux. Ils ont des motifs impurs. et ils veulent aussi tout faire pour empêcher les autres d'y entrer. C'est curieux de savoir que les hommes peuvent empêcher d'autres hommes d'entrer dans le royaume des cieux, les fermer le royaume des cieux. C'est pour cette raison que j'attire votre attention. Vous qui êtes dans le système religieux, les religions de ce monde, vous n'êtes pas obligé de suivre à l'aveuglette tout ce qu'on vous enseigne et tout ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas un système religieux qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas un homme qui va vous amener au ciel. Il y a les gens qui ont été introduits par Satan sur la terre pour le servir. Il y a les gens qui ne servent pas du tout Dieu, malgré le fait qu'ils ont la Bible, qui s'habillent dans des soutanes et les habits spéciaux, les habits religieux. Non seulement ils ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils ne prêchent pas la vérité, mais ils font aussi tout pour empêcher beaucoup d'y entrer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et cela vient de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons également lire dans Matthieu, oui, nous allons rester dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 2 au verset 3. Il est écrit, Matthieu chapitre 16, les versets 2 et 3. Ou bien si nous commençons à partir du premier verset, la Bible nous dit que les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Verset 2, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Puis le Seigneur Jésus-Christ interpelle ses auditeurs ici en disant, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous pouvez savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il y aura de l'orage, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes à la fin des temps. Il faut discerner la fin des temps. Donc ces messages font partie des messages de la fin des temps. Et pour vous montrer que nous sommes vraiment à la fin des temps, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3. Deuxième épître à Timothée, de Paul à Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Il est écrit ici. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Je reprends, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais la Bible nous dit que à la fin des temps, il y aura vraiment des choses qui vont se produire, des temps difficiles. Les gens vont tellement aimer de l'argent. Et c'est ce que nous constatons de nos jours. Les gens aiment tellement de l'argent. Les gens sont prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Les gens cherchent tellement de l'argent qu'ils n'ont même pas du temps pour Dieu. Oui, beaucoup disent régulièrement, je n'ai pas du temps pour aller prier. Je n'ai pas du temps pour lire la Bible. Je suis tellement occupé à mon travail. Les gens aiment tellement de l'argent. Beaucoup les raisons de vivre, ce n'est que de l'argent. Et la Bible nous dit aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est le constat. Aimant le plaisir du monde plus que Dieu. Et la Bible nous dit que les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. En fait, lorsque nous regardons tout autour de nous, nous pouvons constater vraiment que les temps ont changé. Les choses que les gens faisaient en cachette, aujourd'hui c'est en plein jour. Oui, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses qui se faisaient en cachette aujourd'hui, il y a même les présidents qui légalisent cela dans les pays, aux États-Unis, le président Obama a dit qu'il est pour. Mais nous sommes dans quel monde? Mais c'est la fin des temps. Ce qui devait faire la honte des hommes fait la fierté. Oui, tout cela se passe sous nos yeux. La sorcellerie. En fait, il suffit seulement de vous asseoir derrière votre petit écran de télé. On vous sert cela du matin au soir. La magie, la sorcellerie, les crimes, les guerres. Oui, toutes ces choses, le sexe. On montre cela à la télé 24 sur 24. Le diable utilise tous ses moyens pour pervertir les hommes, pour pervertir les enfants. Et les enfants grandissent déjà étant pervertis. Donc il ne faut pas être surpris, c'est la fin des temps. C'est pour vous mettre en garde. Vous devez faire très très attention. Aujourd'hui, lorsqu'on voit les crimes dans les quartiers, dans les rues, on s'étonne. Alors que c'est à la télé qu'on montre toutes ces choses-là. Si vous voulez voir les films de violence, de guerre, de sorcellerie, de magie, tout ce qui concerne le sexe, ouvrez la télé et captez, branchez votre télé, tout cela est à l'intérieur. Et quand les gens essaient de faire ce qu'ils ont vu à la télé, on s'étonne. Ce sont les signes de la fin des temps. Et la Bible nous dit aussi que les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Oui, l'apparence de la piété. La vérité, c'est que si beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, si beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu étaient véritablement chrétiens et hommes de Dieu, notre monde serait nettement meilleur. Mais la vérité, c'est que c'est l'apparence de la piété. Beaucoup se cachent dans des habits blancs, alors qu'au fond, leur cœur est tellement noir, alors que ce sont vraiment les païens 100%. L'apparence de la piété. Et comme j'ai l'habitude de dire, cette émission de la vérité a pour but de nous réveiller enfin de notre sommeil, d'attirer notre attention afin que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, afin que nous puissions revenir à la vérité biblique, afin que nous puissions avoir une vraie foi, une foi fondée sur la parole de Dieu, une foi vivante. C'est cette raison que moi je ne suis pas là pour prêcher une religion. La religion, ça ne m'intéresse pas. Si les gens pouvaient être sauvés au travers des religions, ce que le monde entier est déjà sauvé. Imaginez le nombre de religions qu'il y a sur la terre. Mais malgré tout, les gens sont toujours perdus, ont toujours de plus en plus de problèmes. Alors qu'il y a des religions partout, on en crée tous les jours. C'est parce que la solution de l'homme, ce n'est pas la religion. La solution de l'homme, c'est la vérité biblique, c'est Jésus-Christ. Et je suis là pour défendre uniquement cette vérité biblique et non un système religieux et non une religion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 45, oui, avant de lire Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 45. Je tiens aussi à dire que, toujours par rapport au signe de la fin des temps, avant, les femmes, les jeunes filles s'habillaient correctement. Mais aujourd'hui, vraiment, on ne sait plus dans quel monde nous sommes. Maintenant, les filles s'habillent de moins en moins. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez, beaucoup veulent marcher les cuisses dehors, les poitrines dehors, presque nues. Elles sont habillées comme si elles n'étaient pas habillées. Et tout ça pour séduire les hommes, les détourner Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver dans des divorces que ces filles provoquent, ou bien les fornications, l'adultère. Tout ça, ce sont les signes de la fin des temps, et c'est Satan qui est à l'origine. Et je tiens en passant à donner un sérieux avertissement à toutes les femmes. Vous devez vous habiller correctement. Parce qu'en exposant vos corps n'importe comment, sans le savoir, vous êtes en train d'ouvrir des portes à des démons. Quand vous laissez votre poitrine complètement ouverte, c'est comme si vous êtes en train de dire aux démons et à Satan d'entrer dans votre cœur. Et d'entrer sous vos jambes, parce que vous les exposez, vous ne voulez pas couvrir cela. C'est la fin des temps, l'esprit de séduction. D'ailleurs, nous allons y revenir terre à terre, les séducteurs et l'esprit de séduction. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 45, il est écrit, c'est Jésus qui dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Oui, la Bible nous dit que quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Donc, chaque nourriture a un temps donné. Pour me faire comprendre, lorsqu'un enfant naît, il y a une nourriture qui est adaptée. Le lait maternel jusqu'à un certain âge. Et après, cet enfant peut commencer à manger les choses de plus en plus dures. C'est pour cette raison que si on trouve un enfant de 14 ans, de 15 ans, 20 ans, toujours en train de téter, c'est anormal. Et pourtant, le lait, c'est toujours une nourriture. Mais ce n'est plus adapté pour un enfant de 10 ans, 14 ans, 20 ans, 25 ans. Et Jésus a dit, la nourriture au temps convenable. Et rappelez-vous, je vous ai dit, Jésus a dit, il faut discerner les signes des temps. Donc nous sommes dans un temps où il y a une nourriture qui est adaptée. Fini les bonbons, les chocolats, le lait, il faut passer à la nourriture solide. Oui, parce que jusqu'à ce jour, on a baisé les gens dans les religions avec le bonbon, le chocolat, l'évangile de prospérité, les miracles, les prodiges, les choses agréables à l'oreille, c'est le moment de passer à la nourriture solide. Et le message de notre temps. Retourner à la vérité biblique. Et toujours concernant la fin des temps, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, oui, Dieu va se révéler au prophète Daniel, chapitre 12 de Daniel, le verset 4. Oui, relevez Daniel, chapitre 12, le verset 4, il est écrit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Oui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait prédit dans l'Ancien Testament qu'à un moment donné, la connaissance va augmenter. Ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, vous pouvez comprendre des choses qu'avant vous n'avez pas compris. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu, les choses même que les hommes avaient cachées. Parce que rappelez-vous, je vous avais dit, lorsque nous avons commencé cette série sur les fausses doctrines, qu'on a caché des vérités bibliques aux hommes. Je vous disais déjà que ce n'était pas facile au début pour les hommes d'entrer en possession d'une Bible. Parce que le diable ayant mis des systèmes religieux en place, le premier système religieux qui a été mis en place, a tout fait pour cacher la vérité biblique aux hommes. Il n'y avait que les clergés et certains riches qui pouvaient s'en procurer. C'était sous prétexte qu'il y avait des choses très compliquées dans la Bible. Vous pouvez devenir fou en la lisant. Il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Et on a découragé les gens. Et c'est ce qui continue de nos jours. Les gens ont la Bible, mais ils ne la lisent pas. C'est pour cette raison qu'on peut les tromper. Sachez que Dieu a promis que la connaissance va augmenter à la fin des temps. C'est pour cette raison que vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai déjà dit aussi à plusieurs reprises, que je ne suis pas sûr que vous allez écouter cela encore ailleurs. Parce que ces choses ne sont révélées qu'à ceux qui lisent vraiment la Bible, jour et nuit, pour essayer de comprendre ce qui est réellement écrit, afin de se rassurer que tout ce qu'on fait est conforme aux Saintes Écritures. Très chers auditeurs, très chers auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Vous écoutez l'heure de la vérité. Connaissez la vérité vous rendra libre. La vérité qui divise et qui dérange, mais surtout, la vérité qui libère et qui affranchit. La vérité qui sauve. Oui, nous allons continuer notre partage sur l'Église. L'Église, qu'est-ce que l'Église? Oui, l'Église. L'Église, ou Église, vient du mot grec ecclesia. Littéralement, ça veut dire assemblée. D'un verbe signifiant appelé ordre. Oui, assemblée. D'un verbe signifiant appelé ordre. Dans l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont appelés un jour à être enlevés du monde. Puisque le Seigneur Jésus-Christ revient très très bientôt pour enlever son Église qui est en même temps son épouse. Si le Seigneur le permet, nous allons partager sur l'enlèvement. Donc, l'Église, c'est une assemblée de personnes bien précises, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui attendent son retour imminent. Nous voyons que ça n'a rien à voir avec un système religieux ni une religion. Et la dernière fois, nous avons lu dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Et Éphésiens 5, à partir du verset 25 au verset 29, où la Bible nous dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voulons toujours l'Église et non les Églises. Donc il n'y a qu'une Église biblique. Christ n'a qu'une Église. Et malheureusement, nous voyons qu'il y a de la confusion à cause des multitudes de religions et des systèmes religieux qui poussent comme des champignons. Et la question naturelle, mais comment se fait-il, s'il n'y a qu'une seule Église biblique, comment se fait-il qu'il y ait tant de religions? Et nous avons vu que les systèmes religieux ne viennent pas de la Bible, mais de Babylone, des Babel. Et nous avons vu cela dans Genèse chapitre 11, à partir du premier verset, où les gens, à un moment donné, se sont dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Donc les gens se donnent des noms. Église ceci, église cela, mission de ceci, mission de cela, ministère de ceci, patati patata. Et ils commencent à taper les tam-tams, faire des bruits, et faire la publicité pour attirer le maximum de fidèles, des membres ou bien des clients. Et on dit que c'est l'église. Non, tout cela n'a rien à voir avec l'église de la Bible. Sachez-le une fois pour toutes, tous les systèmes religieux ne viennent pas de la Bible, mais de Babylone et de Babel. Et si l'Église, dans son ensemble, ce sont tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont reçu son Saint-Esprit et qui marchent dans la vérité biblique et qui attendent son prochain retour et surtout qui ont pour chef Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous avons lu la dernière fois dans Colossiens chapitre 1 verset 18 qui dit clairement que Christ est le chef de l'Église, le chef suprême. Malheureusement, tous les systèmes religieux ont les chefs qui dirigent comme une entreprise familiale ou commerciale. Et c'est pour cette raison que il peut avoir des fausses doctrines et des dogmes. Chaque système religieux a ses dogmes. Oui, chaque système religieux, comme les associations, ont les règlements intérieurs, ont des dogmes. Alors que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est basée uniquement sur la parole de Dieu. L'église angélique n'a pas besoin d'avoir des dogmes, puisque la Bible est là pour nous guider, pour nous éclairer jour après jour. Et lorsqu'on laisse la Bible de côté pour s'attacher à des dogmes des hommes, à des philosophies humaines, à des traditions des hommes, ça n'a plus rien à voir avec l'église de la Bible. Et en passant, je vais faire un peu de l'histoire. C'est Satan qui a mis sur pied l'esprit des dénominations ou des religions. Lorsqu'il n'a pas réussi à exterminer les premiers chrétiens par les persécutions terribles et même les morts atroces, il a mis en place un système rusé. Il a institutionnalisé l'église et l'église est devenue officielle. Et à partir du moment où l'église est devenue officielle, les politiciens se sont introduits dans l'église et ont commencé à avoir des postes très très importants dans l'église. Et beaucoup de ces politiciens n'étaient pas des convertis. Il y avait même des empereurs, par exemple comme l'empereur Constantin, qui était un général rompu à l'art stratégique, un calculateur. Il a fait semblant de croire. Et c'est ainsi qu'on lui a donné beaucoup de pouvoir dans l'église. Et c'est lui qui décidait maintenant de beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs lui qui va initier les conciles, les assemblées des évêques que nous avons eu à parler. Et c'est à partir de ces conciles qu'on va décider de ce que l'Église va appliquer ou ne pas appliquer. Tout cela en mettant la Bible de côté. En fait, Satan était déjà à l'œuvre. Parce qu'en s'introduisant à l'intérieur de l'Église, il pouvait maintenant détruire l'Église de l'intérieur et la détourner du droit chemin. Et c'est ainsi que ce système religieux mis en place qui n'avait aucun but, je vais dire qu'il n'avait pas pour but premier d'amener les gens au ciel à connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais surtout d'éloigner l'Église du Seigneur Jésus-Christ de la vérité, et surtout en passant en gagnant beaucoup d'argent. Par exemple, on va voir que dans ces systèmes religieux naissants, on va vendre les reliques, on va vendre les images, les statues, tout cela va donner de l'argent. On va même payer le salut, on va dire si tu donnes beaucoup d'argent, tu seras sauvé. En fait, beaucoup de gens ont payé d'énormes sommes en espérant obtenir le pardon de leurs péchés et le salut. Jusqu'à ce que un certain Martin Luther, par la révélation, arrive à comprendre que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. C'est pas grâce qu'on est sauvé. C'est en passant. Et ainsi de suite, les systèmes religieux se sont succédés jusqu'à nos jours et on ne fait que les créer. C'était juste pour vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fondateurs des systèmes religieux qui ont des motifs louables. C'est vrai qu'il y a des gens sincères dans les systèmes religieux. Mais comme je le disais la dernière fois, zèle et sincérité ne sont pas synonymes de vérité. Je dis bien, vous pouvez être zélé et sincère, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité. Jésus dira même que si vous êtes conduit par un aveugle, vous allez tous tomber dans le trou. Donc ce n'est pas parce que vous êtes conduit par un aveugle, si vous êtes aveugle, le trou va se refermer parce que vous ne voyez pas. Même si vous êtes sincère dans votre marche, dans votre sincérité, vous allez quand même tomber dans le trou. Oui, je veux ici attirer particulièrement l'attention de ceux-là qui pensent qu'ils sont obligés de demeurer dans un système religieux. De ceux-là qui pensent que leur avenir dépend d'un système religieux. Même quand ils sont conscients que ce système religieux ne vient pas de Dieu ou ne sert pas véritablement le Seigneur. Même lorsque Dieu leur montre des choses terribles pour leur prouver que tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup se disent que non, je ne peux pas abandonner ma religion. C'est la religion de mes parents. Non, aucune religion ne vous sauvera. Dieu n'a créé aucune religion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, l'église maintenant, dans une localité donnée, qu'est-ce que c'est? Si l'église universel, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ par la foi, en se repentant. Si cet ensemble constitue l'Église du Seigneur Jésus-Christ, maintenant dans une localité donnée, qu'est-ce que l'Église? Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 18, Jésus dira au verset 20. L'évangile de Matthieu chapitre 18, c'est le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, amen. Ça, c'est de l'appui du Seigneur Jésus-Christ. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. J'ai souligné ici, Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Et non au nom d'un système religieux. En son nom. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Voilà l'église localement parlant. Là où les gens sont assemblés tout simplement au nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas besoin d'une plaque publicitaire ou d'un nom qui se sont donnés ou bien d'un nom que quelqu'un a donné, a créé. Et pourtant, beaucoup de nos jours se battent pour les systèmes religieux, défendent les systèmes religieux. Beaucoup sont même prêts à tuer les hommes à cause de leur système religieux. Oui. Certains vont même loin, jusqu'à s'exposer des kamikazes au nom de leur religion pour tuer les autres. Et ils sont sûrs qu'après tout cela, ils iront au paradis. Quel mensonge du diable! Donc, dans une localité donnée, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où les gens sont assemblés. Tout simplement en son nom. Ils n'ont pas besoin d'une plaque publicitaire. Ils n'ont même pas besoin de se donner encore un autre nom. Parce que lorsqu'on veut se donner encore un autre nom, ça n'a plus rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça devient une entreprise humaine. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46, nous sommes en train de suivre les pas des premiers chrétiens, l'église primitive. Nous rentrons un peu au commencement. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46. Il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur. La Bible nous dit que les premiers chrétiens allaient au temple pour prêcher l'évangile et pour écouter les enseignements des apôtres. En fait, c'était une période de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et puisque les gens avaient coutume d'aller chaque jour au temple ou bien d'aller les sabbats au temple, les jours de sabbat au temple, les apôtres maintenant, après que l'église soit née, profitaient pour aller à la rencontre de ces gens qui avaient déjà cette culture de temple dans le sang pour les prêcher la bonne nouvelle. D'ailleurs, en général, tout finissait toujours mal pour eux. Parfois, on les arrêtait dans ce temple, on les jetait en prison, en les empêchant de prêcher le nom de Jésus au temple. Par exemple, nous sommes au chapitre 4, qui dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivirent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetaient en prison. Comment est-ce qu'un temple qui est censé être le temple de Dieu, on vient arrêter les apôtres qui sont tout simplement en train de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à les mettre en prison? Parce que Dieu avait déjà rejeté ce temple. Dieu n'avait plus rien à faire avec ce temple fait de mains d'hommes. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. C'est pour cette raison que lorsque les apôtres prêchaient l'évangile dans le temple, quand les gens croyaient, la Bible nous dit au verset 46 que c'est dans les maisons qu'ils rompaient le pain, c'est-à-dire la Sainte Cène. La Sainte Cène qui signifie beaucoup de choses. La communion avec le Seigneur et la communion avec les frères et sœurs, la louange, l'adoration, autour de la Sainte Seine, c'était dans les maisons. Et à partir de ce moment, lorsque nous allons lire les Épîtres, nous allons voir que les premiers chrétiens s'assemblaient même dans leurs maisons. Les maisons n'étaient pas l'église, mais il y avait l'église dans les maisons. Et les gens servaient Dieu en toute simplicité et il n'y avait aucun problème. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent que s'ils ne sont pas dans un grand temple très orné, ceux qui ne sont pas en train de prier Dieu, ceux qui ne sont pas vraiment en train d'adorer Dieu. Détrompez-vous, très chers amis. Lisons par exemple l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, le verset 5. Il est écrit. Relevez et après vérifiez l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, le verset 5. Il est écrit. Saluez aussi l'église qui est dans les maisons. Si nous commençons au verset 3, il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leurs têtes pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5, saluez aussi l'église qui est dans les maisons. Voilà un couple chrétien qui avait une église dans les maisons. La Bible dit bien l'église, pas une cellule de prière, l'église. La cellule de prière, c'est une invention humaine. La Bible ne dit pas que quand les gens prient à la maison, c'est une cellule, c'est une église. Parce que l'église, c'est là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus. C'est une église locale. Et dans Colossiens chapitre 4, le verset 15, Colossiens chapitre 4, le verset 15, il est écrit, « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. » Nymphas, c'était un frère en Christ qui avait aussi une église dans sa maison. Je tiens à préciser que sa maison n'était pas l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le chrétien lui-même, c'est toi qui es l'église, toi qui as cru au Seigneur Jésus. Donc, les chrétiens s'assemblaient dans sa maison pour prier. Lorsque les chrétiens s'assemblaient, c'était l'église. Et lorsque les chrétiens se séparaient, c'était sa maison. L'église qui est dans sa maison. Pour dire que l'expression même que l'on a la coutume de dire parce que c'est entré dans le sang que je m'en vais à l'église ne tient même pas debout, on ne part pas à l'église. C'est le chrétien lui-même qui est déjà à l'église parce que c'est toi le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Les maisons c'était tout simplement des lieux de rassemblement. Et pour finir, je vais lire au moins trois versets pour dire que je n'invente rien. Nous sommes dans Philémon, les deux premiers versets. Puis notez, Philémon. Les deux premiers versets de Philémon. Il est écrit. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, et à Achib, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Philémon, et à l'église qui est dans ta maison. Voilà au moins trois exemples. Pour nous montrer que les premiers chrétiens s'assemblaient même dans les maisons des fidèles. Ils priaient, ils louaient, ils adoraient Dieu. Et ils sortaient pour prêcher l'évangile. Mais, aujourd'hui, parfois lorsqu'on voit certaines personnes louer, adorer Dieu dans les maisons, on pense que ce sont des sectes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sectes dans les maisons. Mais les premiers chrétiens s'assemblaient dans les maisons pour louer et adorer Dieu. Lorsque les gens s'assemblent dans les maisons pour adorer Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de l'argent pour bâtir des temples. C'est parce qu'ils ont compris que le véritable temple de Dieu, c'est l'homme lui-même. Ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ou bien le verset 16 et 17 qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous détruisez le temple de Dieu, Dieu vous détruira. Car son temple est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc c'est le chrétien lui-même qui est le temple de Dieu et en retour l'église. Je vous ai dit que le Seigneur Jésus-Christ va revenir enlever l'église. Il ne revient pas enlever les temples, les bâtiments, les cathédrales que les hommes ont construits. Il revient enlever les chrétiens nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Et dans Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, notez ce verset, Acte des Apôtres, chapitre 17, le verset 24, il est écrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Amen. La Bible est tellement claire. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. C'est dans votre Bible. Acte 17, verset 24. Et le premier martyr chrétien, toujours dans Acte des Apôtres, lui, Acte chapitre 7, va dire ceci. Acte des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 46, il est écrit. Acte 7, à partir du verset 46 au verset 50. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Verset 48, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Très chers auditeurs, vous comprenez que l'Église n'a rien à voir avec un système religieux. L'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. Rien de tout cela. Et pourtant, c'est ce qu'on nous brandit, c'est ce qu'on nous enseigne parfois, c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Et pourquoi est-ce que on enseigne certaines choses aux gens qui ne sont pas conformes à la vérité biblique? Si nous lisons dans Acte des Apôtres, chapitre 20, le verset 29, l'apôtre Paul va dire ceci. Acte des Apôtres, chapitre 20, le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, l'apôtre Paul était en train de prophétiser qu'à un moment donné, les gens vont s'introduire et vont enseigner n'importe quoi, pas pour amener les gens au paradis, au ciel, à Jésus, mais tout simplement pour entraîner des multitudes après eux. Donc les systèmes religieux que nous avons lu, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 11, où les gens ont dit, faisons-nous un nom, bâtissons une tour dont le sommet va toucher le ciel, faisons-nous un nom, et surtout, bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel, c'est ça qui caractérise tous les systèmes religieux. Beaucoup ont pour but tout simplement d'avoir autant de disciples que possible. C'est pour cette raison qu'ils peuvent investir des milliards pour bâtir des cathédrales, des temples, parce que si ces temples, ces cathédrales sont remplis, ils sont sûrs d'avoir beaucoup de disciples. En passant, avoir aussi beaucoup d'argent. Parce que beaucoup font des affaires derrière le dos de Dieu et avec la Bible. Voilà le pourquoi. C'est pour cette raison que la vérité, c'est que puisque l'homme n'aime pas vraiment la vérité biblique, l'homme aime les choses agréables. Certaines personnes qui ne sont pas là pour servir le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont là tout simplement pour attirer les gens à eux, prêchent que c'est pour cette raison qu'on va même adopter les coutumes païennes dans certaines églises, dans certains systèmes religieux, pour maintenir les païens à l'église. Parce que ils savent que si on prêche la vérité biblique, beaucoup qui ne sont pas des vrais chrétiens vont fuir. Et le temple sera vide. Et les offrandes et les dîmes vont baisser. C'est pour cette raison qu'il faut prêcher les choses agréables. Prêcher du n'importe quoi, les fables. Et comme les hommes aiment les fables, aiment comme les caresses, le sens du poil, ils viennent là. Mais et pourtant, parmi eux, il y a beaucoup qui sont sur le chemin de la perdition, malgré le fait qu'ils sont assis dans une assemblée, dans un système religieux. Je suis convaincu qu'une assemblée biblique qui prêche vraiment la vérité, qui insiste sur les vérités profondes de la Bible, ne peut pas vraiment attirer les foules. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et Satan, ayant compris cela, a tout fait pour mettre en place des systèmes religieux qui vont attirer les foules. Et les gens vont être fiers d'être dans un système religieux et pourtant, ils ne peuvent pas être fiers de la vie qu'ils mènent. Ils ne peuvent pas se vanter d'être enfants de Dieu, d'être sauvés. Beaucoup défendent le système religieux, les dogmes de la religion, que de défendre la parole de Dieu. Beaucoup sont fiers de dire « Je suis de telle religion », mais ils ne peuvent pas être fiers de dire « Je suis un vrai enfant de Dieu ». Vous voyez la nuance? Je vous invite vraiment à reconsidérer vos voies et à retourner à la vérité biblique. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il faut discerner les signes du temps. Jésus est à la porte et il revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Cette église qui est toi et moi qui avons cru au Seigneur Jésus et qui nous efforçons de marcher dans sa parole. C'est cette église-là que Jésus revient enlever. Il ne vient pas enlever un système religieux. Jésus a dit clairement que lorsqu'il va revenir, beaucoup vont être abandonnés, laissés. Alors qu'ils ont passé beaucoup de temps à prêcher même la parole de Dieu, à marcher sous le soleil, parler de Jésus et de Dieu aux gens. Mais c'était beaucoup plus pour amener les gens à leur religion qu'à Christ, parce que eux-mêmes, beaucoup parmi eux, ne sont même pas en Christ. Je veux prendre un exemple pour vous montrer la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est né de Dieu, qui est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu et qui est tout simplement un religieux. Quand quelqu'un raisonne, par exemple, je suis né dans cette religion, j'ai grandi dans cette religion, c'est la religion de mes parents, et un point c'est tout, personne ne pourra me faire changer de la religion. Est-ce que c'est une religion qui est morte pour vous à la croix? Est-ce que c'est une religion qui vous sauvera? Donc pour dire que même si votre religion vous conduit tout droit dans les temps de feu, vous allez continuer à demeurer dans ce système religieux? Pas du tout. Au contraire, la Bible nous dit sortez, fuyez de Babylone. Que chacun sauve sa vie. Fuyez, sortez. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à nous entretenir sur l'Église et toujours à la lumière des Saintes Écritures, nous allons voir comment l'Église locale, l'Église du Seigneur, localement parlant, doit fonctionner. Nous sommes déjà clairs que l'Église, ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas une religion. C'est tout simplement là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il est au milieu d'eux. Donc là où deux ou trois sont assemblés et s'efforcent de vivre la parole de Dieu, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la vérité biblique, voilà l'Église aux yeux du Seigneur, même s'ils ne sont pas nombreux, parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Et avant de nous séparer, nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, le premier verset, où il est écrit, Genèse chapitre 3, le premier verset, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Voilà ce que Satan est venu suggérer à Ève pour essayer de la séduire, pour l'amener à pécher contre Dieu, à se détourner. Le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable essaie toujours de jeter le doute sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous allez lire et écouter. Vous allez vérifier dans votre Bible et vous serez convaincu que c'est biblique, c'est vrai. Mais le diable va venir et il va vous dire, est-ce que Dieu a réellement dit? De toutes les façons, vous n'êtes plus du tout ignorant. Discernez les signes des temps. Dieu veut que les gens aient la vraie connaissance, pas l'évangile de séduction. La connaissance biblique, la vérité biblique, qui affranchit, qui libère et qui sauve. D'ici là, Très chers auditeurs, très chers auditrices, je souhaite vraiment que vous méditez profondément sur tout ce que nous avons partagé. Et surtout, que le Seigneur lui-même, par son esprit, vous illumine et vous donne de la bonne compréhension. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver sur cette même antenne, à la même heure et même fréquence. Oui, que les honneurs, la louange, l'élévation, les actions, les grâces, les acclamations reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir, non seulement ici-bas, même dans les cieux pour l'éternité, l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, sentez-vous libre. Si vous avez des préoccupations, je suis disponible. Et surtout, oui, vous pouvez avoir beaucoup de mes messages. Oui, sur des supports comme brochures, CD, audio, VCD et même des DVD. Et tout cela est distribué tout simplement gratuitement. D'ici là, que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Et surtout, méditez profondément sur tout ce que vous avez écouté. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237. Qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était
l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête? Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre.